Il est 10h30. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Maggie Serrade. Merci d'être avec nous. Nous avons vraiment une grande salle. La conformité contractuelle. Nous avons cette session dans toutes les réunions ICANN, tous les mercredis. Je vais parler plus fort. Pour les gens qui sont là, pour cette session, nous avons plusieurs langues. Nous avons de l'interprétation dans les langues et nous avons aussi notre personnel qui parle le mandarin et le coréen s'il y a des questions dans ces deux langues. Merci encore une fois, bonjour. Merci d'être ici. Je vais présenter les gens qui sont là avec moi. Soumi Lee, Owen Yang Shuangwen et Roger Lim. Aujourd'hui, nous allons fournir à la communauté ICANN les grandes lignes des programmes ICANN à travers les bureaux d'enregistrement, les registres et les audits. Et donc, sur les quatre fonctions du département pour la conformité. Donc, dans une perspective de mise à jour, ce que l'on voulait partager, l'équipe et moi, avec l'audience, avec vous, nous avons une présence mondiale. Nous sommes à Singapour et à Turquie. Nous pouvons ainsi couvrir les activités de la conformité dans les trois hubs principaux. Cela nous permet de pouvoir travailler donc 6 jours par semaine, 24 heures par jour. Depuis la dernière réunion à ICANN, nous avons réussi à terminer le RAA 2003 et le nouveau plan que nous avions promis à la communauté. Si vous avez été sur le site ICANN.org, nous avons complété tous les formulaires web qui permettent à la communauté de faire rapport de tous les problèmes de conformité auprès de l'équipe. Nous avons mis sur le site web sur une partie qui s'appelle Learn More. Et là, vous avez toutes les questions qui sont souvent posées. Et vous avez tous les modèles qui correspondent. Tout est là pour que nous puissions répondre de façon régulière, efficacement, à travers donc le monde entier, à tous les problèmes de conformité. Bien sûr, aussi, nous avons complété la formation du personnel et dans l'espace des registres et des bureaux d'enregistrement. Le programme d'audit que nous avons communiqué il y a un an, c'est un programme de 3 ans pour se préoccuper de l'environnement courant. L'ampleur de ce programme d'audit pour la deuxième année est le même que celui de l'année numéro 1 et sera le même pour l'année numéro 2. De façon à bien englober l'environnement courant actuel. Nous sommes dans la phase d'initiation. Ce que cela veut dire, c'est que la phase d'audit a été complétée. Les bureaux d'enregistrement et les registres qui étaient dans l'exemple pour l'année numéro 2 ont soumis toute la documentation requise et toutes les informations. Et maintenant, l'équipe de conformité a complété donc la révision de ces documents. Et ce que nous avons fait, nous avons initié donc un rapport que nous avons envoyé vers les parties contractantes pour leur dire quels sont les domaines qui doivent être complétés pour leur dire qu'ils ont complété l'audit de la deuxième année. Nous sommes maintenant dans l'autre phase. Les gens nous demandent à propos des accords des nouveaux registres. Oui, aussi, cela seront audités éventuellement. Nous travaillons en ce moment, comme vous le voyez sur l'écran. Il y a un effort par l'équipe de compléter un plan d'audit qui va détailler quelles provisions, quels domaines doivent être adressés, traités et comment ils vont être traités. D'ici ICANN 50, nous communiquerons là, durant la session Outreach, nous vous donnerons les détails, pas seulement sur le plan d'audit, mais aussi une mise à jour sur les résultats du programme audit de l'année, de la deuxième année. Ce que je voulais clarifier, c'est que, alors que nous créons ce plan, et avant de le présenter à la communauté, l'équipe conformité conduira des sessions communication avec de dialogue avec les parties concernées. C'est une étape importante puisque nous allons envers la communauté pour et nous voulons que tout le monde soit très clair sur ce que nous allons faire. Nous aurons donc les informations et contributions de ces parties contractantes. Nous écouterons leurs inquiétudes, leurs questions et nous présenterons ainsi les résultats à la communauté pour que tout le monde soit à la même page, sur le même pied. Avec la diapositive, je partage avec vous les efforts de l'équipe. Cette diapo est très importante. Vous nous dites, vous faites toujours des rapports sur les volumes, mais les volumes racontent une histoire. Regardez la page WebPed, les pages que nous avons sur le web depuis que nous avons rajouté des informations. Oubliez que c'est 25 000. Ce que cela veut dire, c'est que le passage sur notre page veut dire que nous savons maintenant que la communauté peut venir sur cette page et apprendre quelles sont les préoccupations ou les problèmes. Ce que nous avons vu dans le passé, certaines des choses étaient là. Il n'y avait pas de réponse. On ne savait pas où, comment. Et maintenant, nous pouvons adresser les plaintes plus facilement puisque la communauté ICANN est plus informée. Alors, quand ils soumettent une plainte auprès de nous, au haut de la diapositive, sans diminuer son importance, il y a une autre des visites sur la page que nous contrôlons. Vous voyez qu'il y a, nous essayons d'augmenter notre transparence et ainsi augmenter les paramètres que nous utilisons. Et à travers myacan.org, vous avez accès à tous les paramètres au niveau statistique pour la conformité. Voilà les paramètres que nous utilisons pour voir quelle est la tendance, pour vous faire un rapport, auprès de la communauté. Nous avons des paramètres et nous avons des paramètres qui sont spécifiques au registre et au bureau de registre, mais cela, nous les gardons pour pouvoir adresser les problèmes avec les parties contractantes. La chronologie du programme de l'année, de l'audit de la deuxième année est un processus régulier qui a été utilisé pour l'année donc numéro 1 et qui va être aussi utilisé pour l'année numéro 2 et 3. La transparence, la régularité et donc nous pourrons à ICANN 50 apporter les informations de l'audit. En bas de l'écran, je voulais rappeler à tout le monde tous les gens que nous allons continuer à utiliser le même processus. Si vous êtes des nouveaux venus et que vous n'avez jamais écouté les discussions du conformité, vous pouvez savoir que le processus que nous avons commencé à Dakar est le processus que nous continuons à utiliser. Nous nous améliorons bien sûr sur ce processus. Mais là, le fondement est le même. Nous avons toujours ce que nous avons, l'étape 1, 2, 3, les étapes 1, 2, 3. Ce que cela veut dire, c'est une opportunité pour la conformité de travailler avec les parties contractantes directement et d'adresser tous les problèmes de non-conformité. Savoir, bien sûr, avec les parties contractantes, cela nous permet d'adresser, de traiter tous les problèmes, toutes les préoccupations, parce que pas toutes les plaintes que nous recevons ne sont pas forcément des plaintes de non-conformité ou des défaillances de contrat. Donc même dans le plan d'audit, si une annonce est envoyée, de violation a été envoyée, la communauté ainsi a accès à la chronologie et de pouvoir vérifier quels sont les efforts qui ont pris place à ce moment-là. Encore une fois, le 1, 2, 3 et le processus de violation est le même à travers dans tous les domaines où nous travaillons. Cette diapositive est là pour vous donner une idée quelle était l'ampleur pour l'année numéro 2. Et voyez le nombre de parties contractantes qui ont été impactées dans la communauté à Cannes. Maintenant, nous allons passer à ce que l'on appelle la carte de notes, le carnet de notes. Le carnet de notes, c'est une façon de montrer la transparence. La transparence auprès de la communauté, pas forcément sur le volume, mais ce qui est plus important, sur le comment nous travaillons à améliorer nos non-conformités et les plaintes de non-conformité et comment nous traitons ces plaintes. Et comme vous voyez à droite, c'est comme un compte en banque où nous avons le nombre de plaintes reçues et cela reflète seulement novembre à février. Le mois de mars n'est pas terminé. Ça nous prend 5 jours pour ajouter les données. Mais nous aurons des mises à jour mensuelles. Donc, dans les mois passés, depuis le dernier à Cannes, la dernière réunion, nous avons les chiffres pour les plaintes reçues. Mais si vous regardez la première annonce, la deuxième annonce, notre but, une fois que nous stabilisons nos efforts et notre croissance avec les nouveaux accords, les accords des nouveaux GTLD, notre but, donc, éventuellement, c'est de travailler avec l'équipe INS et de ne pas arriver à la troisième notice. Nous adressons donc ainsi plus rapidement les inquiétudes pour éliminer éventuellement les autres plaintes. Vous voyez maintenant, vous avez une grande vue d'ensemble avec du processus et des paramètres que nous utilisons. À gauche, vous voyez sur la diapositive, vous pouvez voir quels sont les délais entre les parties contractantes et l'équipe conformité. Et avec ça, je vais passer le micro à Owen. Owen va partager avec vous les clarifications de 2013 et les discussions RAA. Ce n'est pas seulement focalisé sur les parties contractantes. Nous allons traiter ces sujets qui sont reliés à chacun d'entre nous, sont liés à chacun d'entre nous dans la communauté ICANN. Owen, merci Maggie. Ce que vous voyez ici, c'est des détails des tendances pour les bureaux d'enregistrement au niveau mondial. Et cela est fait par région, les régions à Cannes. Ainsi, vous pouvez voir quelles sont les tendances. Et cela nous permet à nous d'identifier les problèmes et de voir où nous devons communiquer. Nous savons que certains genres de plaintes sont plus proéminents dans certaines zones géographiques que d'autres. D'autres informations aussi qui analysent les régions différentes et qui montrent un peu le volume des plaintes au niveau des bureaux d'enregistrement. Et ainsi, les régions peuvent utiliser ces données. Et nous ferons donc une communication vis-à-vis de la région Asie-Pacifique. Je pense que ce sera jeudi que nous pourrons traiter les problèmes qui ont été identifiés pour la région Asie-Pacifique. Vous voyez ici sur cette diapositive notre volume de les tendances des plaintes que nous avons reçues. En bas, en bleu, ce sont les chiffres pour les bureaux d'enregistrement. En rouge, ce sont les plaintes que nous recevons tous les mois. Et en noir, les enregistrements des totales des GTLD. Vous voyez qu'il y a 2 mois de volume de plaintes qui ont suivi l'enregistrement des GTLD. Je pense que c'est quelque chose que nous allons continuer à contrôler ou à vérifier dans l'avenir. C'est un résumé du tableau de bord des bureaux d'enregistrement. Vous voyez toutes les plaintes de novembre à février. Et si vous regardez les types de plaintes différents, vous voyez en lettres majuscules, ce sont ceux qui sont pour le RAA 2013, à l'exception du nouveau DRP, des plaintes de nouveau DRP. Mais voilà donc les legs des plaintes précédentes pour le 2, qui sont applicables aussi pour le RAA 2013. Vous voyez les délais des bureaux d'enregistrement, c'est pour tous les types de plaintes, processus 1, 2, 3. Nous avons 5 jours ouvrables pour chacune des plaintes, sauf quand il y a des erreurs. Donc là, il y a un peu plus de temps. Donc toutes les plaintes sont comprises. Les chiffres sont différents s'il y a des inexactitudes. Et là, on parle de 15 jours. Donc voilà les activités de renforcement des bureaux d'enregistrement. Voilà donc les violations qui ont été reçues ou qui ont été à cause des violations on voit qu'ici la plus grosse partie ça couvre plusieurs différentes plaintes. Cela démontre où le volume se trouve pour nous, avec des types de plaintes différents. Si vous regardez, le premier est moins 4000. Ce que cela montre, c'est les plaintes qui ont été fermées avant que la première notice ait été envoyée au bureau des enregistrements. Il y a un nombre de validations qui doivent être faites avant que cela soit envoyé au bureau d'enregistrement. En général, sont des plaintes qui sont invalides ou on a besoin d'informations supplémentaires de la part du bureau d'enregistrement. Ce qu'ils ont envoyé n'est pas suffisant. Et donc, cela montre où les volumes différents sont pour les différentes plaintes.
Alors, une demande qui a émané de la communauté, ça a été la capacité pour toutes les plaintes de faire partie du système de processus de plaintes, pourquoi ces plaintes sont fermées, et c'est reflété par le fait que certaines sont fermées avant la première notification et d'autres, on le voit ici, les motifs pour lesquels ces plaintes ont été fermées. Et là, vous voyez des informations un peu plus générales concernant les motifs pour lesquels les plaintes ont été fermées, par exemple un renouvellement, une rénovation. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là, vous voyez un petit peu les motifs pour lesquels ces plaintes sont fermées. Vous voyez ici les principales plaintes déposées. La plupart des RA sont nouvelles, donc il n'y a pas à faire rapport là-dessus. Et cela s'étend jusqu'au mois de juillet, et la plupart des RA donc concernaient les mois de janvier-février. Je vais maintenant passer au nouveau type de plainte 2013 RA qui ont été identifiées dans le cadre du nouveau RA et qui font partie de notre nouveau système de processus qui permettent à la communauté d'envoyer leurs plaintes. Vous voyez ici toutes les sections à l'écran. L'une des grosses choses qu'a fait ce processus, c'est la spécification WHOIS et l'incohérence WHOIS. Que ces informations soient validées pour les informations WHOIS, pour les bureaux d'enregistrement. Donc, les bureaux d'enregistrement doivent vérifier ou revérifier les adresses e-mail au moment de l'enregistrement. Et s'il y a une plainte d'inadéquation WHOIS, s'il n'y a pas de réponse formelle pour le propriétaire du compte, alors cette adresse doit être suspendue. Donc, il faut procéder à une vérification. Le RA 2013, à voir avec les jours ouvrables, mais en 15 jours ouvrables, donc, il y a... on laisse le temps au bureau d'enregistrement de répondre pour traiter cette plainte. Il y a deux voies qui se déroule en même temps concernant les plaintes de d'incohérence. On vérifie donc le mail, on enquête et on corrige le manque de cohérence supposé. On répond donc à cette vérification de mail et l'autre voie, c'est qu'on regarde l'actualisation de Quiz qui est validée et le nom de domaine est suspendu en cas de non-réponse ou les informations se sont avérées correctes et validées. Autre condition requise par le RA 2013, il y a une contribution de Quiz dans un format standard qui est une condition requise pour les nouveaux GTLD. L'ICANN a identifié plusieurs problèmes que les bureaux d'enregistrement rencontrent à cet égard et on veut s'assurer que les bureaux d'enregistrement remplissent ces conditions par rapport au format standard. On donne à l'ICANN des informations supplémentaires concernant les spécifications et des informations supplémentaires telles que les responsables ou les entités responsables. Également, rapport sur les abus. Il y a deux sections là-dessus. D'abord, sur l'application de la loi. Il faut répondre dans les 24 heures à une plainte justifiée et ça doit être fait sous 7 jours. Il y a une autre composante où les bureaux d'enregistrement doivent prendre les mesures nécessaires pour répondre de manière appropriée à toute plainte. Et rien ne dit que la juridiction correspondante doit s'appliquer. Certains bureaux d'enregistrement ont dit qu'ils doivent communiquer à l'ICANN quel est ce qui a fait l'objet de l'abus. Également, les délais, certaines données sont retenues, ainsi que plusieurs conditions. Je sais qu'on en a déjà parlé, donc je ne vais pas en parler maintenant. Ce qu'on a observé, c'est une augmentation des problèmes concernant les services d'anonymisation et d'enregistrement fiduciaire. Pour ce qui concerne les services de confidentialité, nous avons besoin d'informations concernant les contacts. Concernant les services d'enregistrement fiduciaire, il faut qu'il s'agisse d'une entité distincte. Sur ce, je vais maintenant céder la parole à Soumi pour une actualisation sur les nouveaux registres. Et accord des nouveaux registres. Bonjour, Soumi Li au micro. Je travaille donc dans le domaine des registres, dans le service de conformité. Je vais vous donner des informations sur ce qui s'est passé depuis la dernière réunion de l'ICANN à Durban. C'est la première réunion après Durban où nous avons nous avons des TLD délégués, donc passons à la situation par rapport à la conformité. La portée de ce que nous faisons est liée à l'accord d'enregistrement et aux politiques de consensus qui s'appliquent. Voilà les différents domaines où il y a un contrôle de conformité ainsi que le type de plainte que l'on reçoit. Voici les délais, un aperçu des délais concernant ce processus et là où nous en sommes dans ce processus. comme vous le voyez à l'écran, dans la phase du contrat, il y a une transition vers la délégation, et une fois que les TLD délégués sont faits, il y a un processus de sensibilisation, puis le processus Sunrise, les DRP et les autres plaintes concernant les registres, également les plaintes concernant les... les legs ou héritages. À l'écran ici, vous voyez les 40 types de plaintes. Les rapports mensuels, les problèmes liés à l'escroquerie des données, au dépôt, pardon, des données, escrow en anglais. Donc, nous contrôlons activement cela. Ensuite, le type externe de plainte, ce sont les plaintes que l'on reçoit par les formulaires Internet en ligne, donc, sur notre site. J'aimerais à présent passer aux enseignements que nous avons tirés jusqu'à présent, comme vous le savez. Il s'agit encore de quelque chose de nouveau. Voilà les problèmes que nous avons rencontrés, que nous souhaitions partager avec la communauté. Et un premier enseignement important que nous avons tiré, c'est qu'il y a peut-être eu une confusion par rapport au moment où les responsabilités, où la responsabilité commence. Et, concernant l'accord d'enregistrement, c'est lorsqu'il y a délégation. Et non pas lorsqu'il y a eu enregistrement du nom. Voilà des statistiques sur les plaintes que nous avons eues depuis novembre 2013 jusqu'à février. Comme vous le voyez ici sur l'écran, nous en sommes encore à une phase préliminaire, donc nous n'avons pas encore de violation. Vous voyez ici à gauche, nous avons donc un total de 226 plaintes traitées, et en dessous vous voyez le nombre de plaintes fermées, 71. Et ensuite la ventilation de ces chiffres. Donc, vous voyez qu'ici, on en a un peu plus, 114, ce qui est dû au fait que depuis la première délégation, depuis octobre, l'une des questions que nous souhaitions aborder, c'est le type de plainte que l'on a traité jusqu'à présent et quelles sont les conditions essentielles que l'on souhaite souligner. Comme vous le voyez ici, il y a des spécifications, il y a une section qui s'applique ici, mais les données et les formulaires concernant les données doivent être accessibles à 0 heure UTC. Concernant la catégorie URS, nous n'avons pas encore eu de plainte, mais nous voulions rappeler à tous quelles sont les conditions requises. Les registres doivent fermer le nom de domaine qui fait l'objet de la plainte dans les 24 heures. Si vous soumettez une plainte à l'ICANN, nous suivons le processus 1, 2, 3, mais dans ce cas-là, dans un délai de 24 heures. Donc chaque phase de notre processus 1, 2, 3 durera 24 heures. Ce qui figure à l'écran, c'est un ce qui a constitué un problème jusqu'à présent, qui relève de la spécification 11 de l'accord de base. Je ne sais pas combien d'entre vous ont participé aux réunions du conseil d'administration, mais les engagements obligatoires et volontaires sont applicables et ils font partie de cet accord de registre ou contrat de registre. Excusez-moi, il y a un problème dans ma présentation. Veuillez montrer la diapo 35 à l'écran, s'il vous plaît. Petit problème technique, donc. Donc, revenons au deuxième paragraphe. Donc, il y a une révision préliminaire de la plainte pour s'assurer qu'elle est complète, pour nous assurer de du statut de la personne qui dépose la plainte. Le registre et la personne qui porte plainte ont 30 jours pour résoudre le différend. S'il n'y a pas de solution différend, alors il y a une enquête de la part de la CAN où cela sera transmis au panel permanent qui ensuite renverra une décision à l'ICAN. Dernier point important, parce que si la personne ayant porté plainte a raison, alors l'ICAN envoie une notification à l'opérateur de registre qui aura 30 jours pour régler la situation. Voilà des informations supplémentaires, des liens pour si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires. Merci Soumi, merci Owen. Nous en avons fini avec notre présentation et comme nous y sommes engagés, vous avez maintenant le temps de poser des questions. Nous avons des micros, des services d'interprétation ici dans la salle. Donc, nous avons une question sur le chat de Steve Metalitz. Comment est-ce que le manuel de vérification est défini en termes de spécification sur la conformité WIS 2013-RA? En d'autres termes, s'il n'y a pas d'enregistrement non vérifié, est-ce que cela n'est pas fermé ou suspendu, mais plutôt vérifié d'un point de vue manuel? Que doit faire le bureau d'enregistrement? Alors en fait, c'est Owen au micro, il y a deux manières d'y répondre. Il y a le principal client qui peut enregistrer les noms de domaine pour le compte d'autres. Et cela, ce n'est pas bien défini dans le RA 2013. Mais pour le titulaire de nom de domaine, il y a ces 15 jours courus. Et s'il n'y a pas de vérification manuelle à la fin de ces 15 jours courus, alors ce nom de domaine doit être suspendu, même si le bureau d'enregistrement continue de faire des vérifications manuelles. Concernant la définition de vérification manuelle, ça n'est pas défini, à vrai dire, dans le contrat. Toutefois, on s'y penche au cas par cas. Il y a eu plusieurs exemples qui se sont présentés, tels que lorsque le client a fourni une copie du permis de conduire qui a permis de vérifier l'identité ou une adresse pour vérifier l'authentification. Ou autre exemple, si le bureau d'enregistrement a des données concernant sa carte de crédit pour le paiement du nom de domaine et qu'il y a des informations concernant l'adresse également, on peut vérifier ces informations de cette manière parce qu'il ne s'agit pas d'une vérification automatique. Alors, il ne s'agit pas d'exemples exhaustifs, ce sont simplement des exemples que l'ICANN peut prendre en considération pour vérifier tout ce type d'informations? Merci. Michael, au micro. Sur le diagramme, il y a, sur votre diapo, il y avait trois types de plaintes concernant la liste de réserve des noms. Pourriez-vous développer un petit peu, nous en dire un peu plus par rapport aux plaintes qui ont été réglées et celles qui ne l'ont pas été? Est-ce que c'est la diapo à laquelle vous faites référence? Demande Soumi. Soumi au micro. En fait, ces plaintes ne concernaient pas simplement ou spécifiquement les noms de réserve. En d'autres termes, il s'agit de plaintes invalides, mais elles sont simplement venues de cette manière. Merci. Alan Greenberg, du comité at large. Plusieurs questions par rapport à l'application du PIC. D'abord, vous parlez, vous utilisez le terme de good standing en anglais, donc qui vous dites que la plainte sera acceptée si la plainte est en bonne et due forme. Pourquoi utiliser ce terme en bonne et due forme? Owen, au micro. Ce qui s'est passé par le passé, c'est qu'il y a eu des abus ou des rapports problématiques. C'est pourquoi il y a un traitement manuel maintenant, parce que parfois il y a des abus, et nous avons bloqué ces personnes. Et ces personnes ne peuvent plus faire une utilisation abusive de ce processus, ne peuvent plus présenter de plaintes. Ça s'est présenté plusieurs fois. Oui, la personne qui a posé la question, je ne voulais pas. En fait, il faudrait avoir une définition écrite de ce terme en bonne et due forme ou en règle. Oui, j'essaie de trouver cette définition, mais ça fait partie des procédures. Autre question de fond. Vous avez fait référence au panel permanent. Est-ce qu'il y a des plaintes dans le processus de résolution des conflits? Parce que s'il y a violation, quel processus avez-vous en place pour appliquer les PICS si on ne peut pas démontrer de dommages matériels envers eux-mêmes? Donc vous demandez, dit Soumi, s'il n'y a pas de dommages matériels, que faisons-nous? Alors le DRP veut que l'on démontre un dommage matériel afin de pouvoir déposer une plainte. Donc la question est, quel est le processus de conformité en place si on ne peut pas démontrer de dommage matériel? Exemple, une organisation de consommation, une association de consommateurs qui est en train d'essayer de protéger un particulier, et donc quel est le processus en place outre le DRP pour traiter ce genre de préjudice? Nous, soumis au micro, nous faisons une révision préliminaire puis la transférons. Donc je ne sais pas sur quoi porte votre question exactement, sur quel processus supplémentaire. Au titre du DRP, vous n'allez pas transférer cette plainte jusqu'à ce que la personne portant plainte ait démontré un préjudice matériel. Donc soumis au micro, c'est en fonction de la plainte. Mais nous allons suivre la même procédure que pour toutes les autres plaintes. Si je dis qu'il n'y a pas de préjudice matériel, alors on ne peut pas le soumettre au titre du DRP, parce que le DRP exige ou implique un préjudice matériel. Alors, Maggie au micro, nous n'avons effectivement pas de moyen de le traiter, mais au deuxième point ici, si vous avez un rapport qui a été fait, alors l'ICANN fait une révision préliminaire pour s'assurer que cette plainte est complète. Donc pour répondre à votre question, s'il n'y a pas de préjudice matériel, nous allons probablement demander à cette personne de nous expliquer quel est le problème. Il faut mieux comprendre ce dont on est saisi pour que l'opérateur de registre nous explique mieux. Et c'est ce que l'on appelle un rapport qui est traité. C'est ce que j'ai dit au début de la présentation. Dans les 3 prochains mois et d'ici ICANN 50, nous allons vous donner plus de détails sur l'audit et sur le nouvel accord d'enregistrement. Et nous allons travailler sur une révision proactive des PICS en fonction des TLD délégués. Nous allons lancer une révision ou un pré-audit pour voir à quoi ressemble la situation et quelle est la situation exacte.
Alan Greenberg, merci. Oui, je suis Cathy Clemen du groupe non commercial. Je voulais vous remercier, vous avez expliqué des choses très clairement et je vais faire passer vos diapositives. Je pense que vous avez fait un bon travail avec celle-là. On ne m'entend pas. Ce n'est pas une plainte qu'on m'a jamais posée. C'est pas, on ne s'est jamais plaint de ça avant. Ma question, c'est combien de noms de domaines ont été révoqués à cause de des problèmes de vérification, de validation? Merci. Personne au panel. Oui, nous avons pouvoir fermer les plaintes là où il y a eu des inexactitudes et les gens qui ont été suspendu. Nous n'avons pas la capacité dans notre système de vous indiquer pourquoi les choses ont été ainsi. Je pense que nous n'avons pas la visibilité de ce qui se passe avec le bureau d'enregistrement. Je pense que c'est quelque chose qui serait plus applicable avec les exactitudes des données de WHOIS. Et avec les PDP qui sont associés avec cela, je sais que c'est quelque chose qui devrait être inclus là-dedans. La personne au micro dans la salle, l'intervenant. Le contrat, l'accord dit que le bureau de l'enregistrement doit être en accord avec n'importe quel utilisateur de l'Internet. Moi, en tant qu'utilisateur, j'enregistre sur le site, je vais voir comment cela fonctionne et je suis allée voir qu'il y a un accord simple qui dit que la base, il a été conclu de la part des bureaux, des registres. Mais le registre n'a pas donné le droit de conclure, n'a pas été donné le droit de conclure des accords de notre part. Il semble que cet accord entre les parties telles que les utilisateurs et les sites ou de la part de ICANN ne sont pas juridiquement binding, contraignants. Merci. La question donc simple, est-ce que c'est possible d'ajouter dans les procédures la capacité de conclure des accords que ce soit des accords ou entre les parties au lieu de ceux qui sont vraiment très génériques jusqu'à ce qu'on une lettre d'un avocat ou quelque chose. Max, merci pour votre question des soumis. Je ne peux pas répondre à cela aujourd'hui, mais si vous ne voulez bien, pouvez-vous nous envoyer la question à l'écrit afin que nous puissions l'envoyer à la bonne équipe qui s'occupe de ce domaine et nous pouvons ainsi vous répondre. La personne au micro, oui, c'est une bonne idée. Vous devriez me dire, ah, oh, c'est une bonne idée de nous donner une lettre de procuration soumise. Merci. Toutes les réponses sont bonnes et merci pour votre question, votre recommandation. Vraiment, si vous pouvez nous l'envoyer à l'écrit pour que nous puissions pas manquer donc un élément de votre question. Et l'adresse, c'est... Vous connaissez l'adresse et nous ferons passer ça à l'équipe qui s'occupe de ce problème. Merci. Stag Hammett avec Rightside. Maggie Soumi, merci. La présentation était très informative. J'ai deux questions, si je peux. C'est que la première question est liée à l'audit du processus de plan que vous avez mis en place pour auditer les bureaux d'enregistrement. Est-ce que vous planifiez d'annoncer à ICANN 50 entre maintenant et d'ici là, vous avez une période où vous pouvez recevoir des contributions pour préparer ce plan. Quel genre de session vont prendre place? Que ce sera des webinaires, des réunions? Quel genre de réunion pensez-vous mettre en place? Maggie, oui, merci de votre question, Stanton. Nous allons suivre le même processus que nous avons suivi dans notre programme de 3 ans. Il nous suffit maintenant de finaliser des détails. Nous allons faire passer tous les opérateurs de registre à travers. Nous allons envoyer une invitation. La dernière fois, nous avons fait cela avec un sondage où les gens pouvaient sélectionner les sessions auxquelles ils voulaient participer. Ce sont des sessions fermées avec les parties contractantes seulement. Si c'est pour les registres, ça va vers les registres. Si c'est pour les bureaux d'enregistrement, ça va vers cela. Nous allons informer les opérateurs de registre de 2 ou 3 sessions que nous allons conduire. Ainsi, ils pourront nous suivre. Ce sera peut-être sous la forme d'un webinaire Adobe. Nous allons présenter les programmes pendant 10 à 15 minutes et ensuite laisser à peu près 45 minutes pour des questions. À la fin de la présentation, nous allons toujours laisser une adresse email. C'est l'adresse conformité, l'audit pour les conformités. Ainsi, nous pouvons répondre à vos questions avant la réunion ICANN 50. Maintenant, donc, nous pensons conduire, donc, nous parlons d'ICANN en juin, dont nous espérons pouvoir conduire ces réunions au mois de mai. Cela laissera du temps pour adresser, donc, traiter ces questions et avoir du temps pour répondre et avoir des solutions. Stanton, sur le code de conduite ou sur les plaintes que vous avez reçues jusqu'à présent, j'ai vu que vous aviez 5 plaintes qui sont reliées au code de conduite. Comme vous savez, le code de conduite a des éléments très spécifiques. Donc, ce que j'aimerais entendre, est-ce que vous pourriez être un peu plus spécifique sur les plaintes que vous avez reçues au sujet du code de conduite? Merci. Maggie, oui, ça avait à voir avec surtout le fait que cela n'avait pas été reçu du tout. Et en fait, là, vous savez, une autre leçon, nous avons mentionné cela au départ, de savoir quand les obligations commencent. Et c'était le plus gros problème. Je suis vraiment désolée si, durant cette présentation, j'ai dit depuis le dernier meeting d'Urban, et en fait, je parlais, la réunion de Durban, et en fait, je parlais de Buenos Aires. Je suis désolée de cela. Youngson, un micro. Dans la salle Adobe, quand il s'agit des vérifications manuelles, s'il s'agit des données des cartes de crédit qui sont retenues par les bureaux d'enregistrement, pourquoi y a-t-il un processus de 15 jours? Puisque les bureaux d'enregistrement ont déjà ces informations, est-ce que le délai ne devrait pas être plus rapide? La date butoir ne devrait pas arriver plus rapidement? Steve, j'ai la personne au panel. Oui, j'ai déjà. Cela donne au bureau d'enregistrement le temps de suivre les procédures et de contacter le participant. dont la personne, nous laisserons nous laisserons les fonctions, nous laisserons les bureaux d'enregistrement décider des informations de cela. Est-ce que, encore sur le Adobe, est-ce que vous allez mettre obligé proactivement mettre en place les obligations sous le proxy d'intérim, les spécifications de proxy intérim du RAA 2013? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut trouver ces informations, où est-ce que le public doit aller chercher les informations avec chaque bureau d'enregistrement pour savoir si cela a été satisfait? Encore une fois, Owen, au micro. C'est quelque chose qui est en externe de l'audit, de l'ampleur de l'audit. Cependant, souvent, il y a des vérifications de conformité pour voir s'il y a de la conformité. Et ça, c'est une plainte que nous devrions... ce serait des plaintes qui viendraient de la communauté. C'est quelque chose que nous... où nous trouvons ce problème quand il y a des problèmes d'adresse proxy. En ce moment, il n'y a pas de plan pour faire une révision là-dessus. Du côté des plaintes publiques, si c'est quelque chose qui a un résultat, un problème de communication, c'est quelque chose que vous pouvez trouver sur ICANN.org. Jusqu'à maintenant, ce sont des résolutions qui sont plutôt simples et cela est confidentiel. Donc, informel, mais qui sont confidentiels. La personne au micro, quand il y a vraiment une violation, que vous trouvez une violation, c'est publish. Et quand toutes les autres cas de conformité ne sont pas publiés sur le site ou quelque chose comme ça, j'ai vu que le cas où un des denotes qui avait autorisé echo.tld, je sais pas trop si ça avait été publié par le candidat ou par une autre partie. Maggie, je veux adresser votre première question. Vous êtes là demain pour notre session demain sur le onboarding pour les nouveaux TLD. J'espère que vous serez là. Nous allons passer à cela en détail demain, le processus. Donc, comment est-ce que nous utilisons la communication et la collaboration, comme vous l'avez entendu durant la réunion avec des registres hier. La collaboration en travaillant avec les opérateurs de registres est en phase 1, 2, 3. Des phases 1, 2, 3. Ça nous permet de vous parler et de recevoir vos réponses. Et si ce n'est pas satisfaisant, vous aurez 3 opportunités. C'est seulement entre ICANN et les parties contractantes. Si après la 3e notice, le scénario simple, si nous n'avons pas reçu, par exemple, de réponse ou pas de collaboration d'ici la 3e notice, il y aura violation et la violation sera publique sur le site web, sous ICANN.org, sur ICANN.org, et il y aura donc la chronologie de la première, deuxième notice qui ont été envoyées, les courriels, l'adresse courriel, le téléphone que nous avons appelé. Donc, ainsi, le public saura quelles sont les activités qui ont amené cette violation. Mais avant cela, nous ne publions pas. Rejoignez-nous demain. Nous allons donner beaucoup plus de détails là-dessus. Sur les processus 1, 2, 3, la première étape, c'est un courriel. Et la deuxième notice, comme vous savez, des emails, les courriels, c'est des fois beaucoup trop pour chacun d'entre nous, trop de courriels. Nous, encore une fois, nous devrions attendre 2 ou 3 jours pour initier, faire donc un coup de fil à la partie contractante, que ce soit des bureaux d'enregistrement ou des registres, opérateurs de registre, et là, faire un coup de fil pour nous assurer que vous avez reçu la notice et adresser et traiter les questions qui peuvent être en suspens. Pour la 3e notice, donc après le courriel, là, nous envoyons un fax similé et envoyons et aussi faisons un coup de téléphone. Nous essayons d'utiliser tous les moyens de communication pour essayer de joindre les parties contractantes avant d'en arriver à une violation. Mike Pledge, au micro, je suis désolée si cette question a déjà été donc adressée auparavant. Est-ce que vous pouvez nous donner un une mise à jour pour le RFP, pour les panels des PIC. Est-ce que ces gens ont été sélectionnés ou est-ce que c'est encore un silo ICANN pour répondre à ces questions? Nous avons une mise à jour, dit Maggie. Maggie, au micro. Donc, Roger, au micro, Roger, si nous avons compris que le panel sera donc décidé avant le meeting avec la réunion ICANN 50. Donc, quand vous dites, personne au micro, vous dites panel, combien de personnes nous parlons? Maggie, oui, c'est Christophe Papak de l'engagement DNS qui s'en occupe. Nous contribuons à ce processus, mais nous ne menons pas ce processus. Il serait mieux pour vous de donc poser la question à Christa. Owen, bonjour à tous les gens du panel. Michele au micro. Michele. Je n'étais pas là durant toute cette session. J'étais donc dans une réunion d'INSEC. Quand on parle du système 1, 2, 3, du côté des bureaux d'enregistrement, j'en suis le leader, j'en suis le président des bureaux d'enregistrement, pardon. Nous apprécions que vous ne publiez pas à chaque fois que vous recevez une plainte. Et comme je l'ai entendu dans beaucoup d'endroits cette semaine, les groupes qui disent que ce département conformité ne fait pas son travail, basé sur le fait que vous ne publiez pas les noms, les détails de chaque plainte que vous recevez. Je peux vous assurer que si vous commenciez à faire cela, nous, du côté des bureaux d'enregistrement, ne serions pas forcément très heureux. Et ça, je dis ça d'une façon très diplomate, nous serions en fait très furieux. Et nous commencerions des actions juridiques contre vous pour diffamation, etc., etc. Donc, parce qu'une plainte n'est pas la même chose que, on ne sait pas, je ne suis pas un avocat, ce n'est pas un crime, disons. Je pourrais être accusé de faire quelque chose, mais ça ne veut pas dire que je l'ai fait. Donc, ça a besoin d'être un effort de collaboration. Si nous ne trouvons pas une résolution, bien sûr, vous pouvez agir. Mais il faut que les gens comprennent bien que ce genre d'attente du bureau des conformités de tout publier, cela n'est pas acceptable pour ICANN est une super responsabilité. En général, ils sont très responsables. Si je leur envoie un courrier à 4h du matin, par exemple, comme ce matin, la réponse arrive à 8h30. Donc, ce n'est pas mauvais du tout. Maggie, merci, Michele, pour vos commentaires. Je voudrais rappeler à tout le monde dans l'audience que quand le processus de conformité a été rassemblé, quand ce processus a commencé, c'est vrai, je l'ai déjà dit au groupe des bureaux d'enregistrement. Pour moi, ça fait 3 ans que je suis avec ICANN, dans une semaine d'ailleurs, cela fera 3 ans. Quand j'ai commencé à Singapour il y a 3 ans, nous avons réalisé que nous avions des défis devant nous, donc j'ai engagé tous les groupes de la communauté, toutes les parties prenantes, et tout le monde voulait aider le service conformité. Je les remercie, je rappelle que nous avons besoin de l'aide de toutes les parties prenantes. Nous avons besoin que vos attentes soient claires. Quelles sont les attentes de chaque partie prenante et comment nous pouvons collaborer. C'est la meilleure aide que vous pouvez nous fournir. Depuis la réunion de Singapour, l'équipe conformité est donc basée dans les informations de suivi que nous avons reçues. Nous avons engagé donc un processus. À Dakar, nous avons fait circuler ce processus et à Costa Rica, aussi. Nous avons reçu des informations en retour, comment ce processus devrait être construit, comment il va opérer. Donc, il y a eu des échanges lors du processus. Et s'il y a des demandes pour que ce processus change, il faudra que cela circule dans toutes les parties prenantes. Et nous allons devoir comprendre les raisons pour lesquelles il y a eu des changements. Ce n'est pas un processus que nous avons créé en silo. C'est quelque chose que nous avons construit pour tout le monde, avec la participation de tout le monde. Je voudrais rappeler à tout le monde, toutes les plaintes que nous recevons ne sont pas forcément valides. Nous voulons avoir le bénéfice du doute et pouvoir résoudre les problèmes. Mais croyez-moi, nous contrôlons les problèmes. Durant la réunion avec les bureaux d'enregistrement, je pense qu'hier c'est Jeff Newman qui a dit « On a été délégué dans les 8 heures après que nous avons envoyé la première notice ». Je dis « Non, mais allez au forum public et laissez le monde, tout le monde l'entendre ça ». Nous allons mettre en place le contrat. Nous allons faire... En tant que partie contractante, quand vous recevez un courriel de conformité, répondez. Nous, si vous ne répondez pas, nous allons passer à la prochaine étape. J'ai des bureaux d'enregistrement qui sont furieux quand nous les appelons, qui le violaient. Vous ruinez notre réputation. Enlevez cette violation. Non, je n'ai pas ruiné votre réputation. Vous l'avez fait vous-même. Nous avons atteint tout. Nous avons utilisé tous les modes de communication pour vous rejoindre. Et là, s'il y a une violation du contrat, nous avons demandé de réparer le problème. Maintenant, nous avons beaucoup de choses à faire. Il y a le contrat actuel, il y a le contrat, le RAA 2013, il y a toutes les choses que nous avons faire. Il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre. Le processus continue tel qu'il l'est. Mais pour le public, vous voulez savoir ce qui se passe dans les étapes 1, 2, 3? Ouvrez la notice de violation. Dans la notice de violation, nous essayons de remplir cette carence et de voir où sont les carences de communication. En bas de la notice, après l'explication qui est fournie, vous trouverez une chronologie. Et dans la chronologie, vous aurez la date de la première notice, quand elle a été envoyée, à quelle adresse mère, et quand la réponse était due. Et cela vous donne toutes les dates, toutes les étapes qui ont amené jusqu'à la violation. Il y a des tas d'informations qui n'étaient pas disponibles auparavant. Donc, nous espérons qu'avec cette chronologie, nous avons donc rempli cette carence. Youngson, nous avons une question dans la... de Simetalitz. Il y aura-t-il des opportunités pour les parties non contractantes, pouvoir donner des informations dans le registre nouveau GTLD, donc du programme d'audit du registre de nouveau GTLD, avant que cela soit présenté à ICANN 50. Encore une fois, merci pour la présentation du service conformité. Maggie, nous n'avons pas pensé à ça, mais j'aimerais vous encourager, si vous avez une idée ou si vous êtes une inquiétude, une préoccupation, envoyez-nous un email à compliance@icann.org et nous allons réviser. Et si cela correspond à un domaine, nous avons besoin de clarification, nous vous contacterons. La fonction de l'audit n'est pas basée seulement sur le contrat. Nous avons des experts dans les risques pour cet audit. Nous faisons des révisions, nous avons des évaluations de risques, des analyses de risques, et nous basons sur ce que nous entendons à chaque réunion à ICANN. Nous écoutons tout le monde de façon avec beaucoup d'attention, et nous construisons des programmes qui renforcent et qui répondent aux inquiétudes de la communauté. Donc tous les gens... il y a beaucoup d'inquiétudes, comme vous savez, sur les pics. Nous n'allons pas attendre la fin de l'audit. Nous allons voir quelles sont les inquiétudes, les préoccupations au niveau du pic et essayer de les traiter. Si vous voulez partager quelque chose avec nous, envoyez-nous un courriel et la réponse courte, c'est non. Pour l'instant, directement, nous communiquons avec les parties contractantes seulement. On ne leur demande pas de l'ampleur. On ne demande pas les parties contractantes quelles sont les provisions que nous voulons auditer. Ils n'ont pas de choix. on leur dit, voilà l'ampleur des choses sur lesquelles nous allons vous faire notre audit. Voilà les éléments que vous devez nous fournir, les réponses que devez nous donner. Voilà les validations et ce que cela veut dire. C'est ça l'ampleur de la communication. C'est pas l'ampleur de l'audit en lui-même. C'est les informer de ce qu'on va leur demander et leur donner l'opportunité de clarifier certains points.
Thank you. Alan Greenberg still.
Alan Greenberg. Je parle en mon nom propre et non pas au nom du comité à large. Pour répondre aux commentaires de Mike Kelly. Donc, une fois encore, je parle en mon nom propre. Donc, vous rejetez l'idée selon laquelle toutes les plaintes doivent être publiées. Mais pensez peut-être à toutes les plaintes valides, ceux qui sont traités et qui sont ensuite suivis avec les bureaux d'enregistrement. D'un autre côté, je pense que avoir des archives sur les bureaux d'enregistrement qui ont un grand nombre de plaintes, même si elles sont rectifiées une fois que vous les avez transmises au bureau d'enregistrement, mais un nombre important de plaintes par rapport au nom de domaine, c'est quelque chose qui, je crois, peut intéresser le public par rapport au nombre qui disent que c'est différent de la norme. Ça, ce serait intéressant. Michael, au micro. Je suis satisfait de la deuxième partie de la phrase d'Allen. Donc, moi, je parle à nouveau en tant que président de l'unité constitutive des bureaux d'enregistrement. Nous, en tant que petit bureau d'enregistrement, s'il y a une plainte pour X nombre de domaines, si vous regardez GoDaddy, est dans une situation tout à fait différente. Si on regarde les pourcentages, ils parlent d'eux-mêmes. Je sais que la division de conformité a partagé avec nous ces informations. Et il y a eu certains bureaux d'enregistrement à l'époque qui avaient un petit nombre d'enregistrements et beaucoup de plaintes. C'était évident. Et ça répond à ce que dit Alan. Merci. Dick Rychanowski au micro, point Berlin. Une question. Parfois, on ne sait pas si on est en conformité avec les noms de réserve ou telle ou telle spécification. Devrions-nous vous transmettre ces questions ou au centre d'aide aux clients, parce que je ne sais pas quoi faire dans ces cas-là. Maggie au micro, merci d'avoir posé cette question. Je veux vous assurer, et ça a été dit dans la réunion d'hier, effectivement, parfois il y a un problème de communication à l'ICANN. Et merci d'avoir soulevé cette question. Ce que je voulais faire, c'était vous dire que maintenant, on se parle entre nous. Si vous voulez envoyer votre question au service de soutien clientèle, fort bien. Si vous voulez nous l'envoyer à nous, fort bien également. Nous allons nous assurer de travailler avec les autres membres de l'équipe à l'ICANN, même s'il ne s'agit pas simplement d'une question qui relève de la conformité. Question à nouveau. Donc, si j'envoie cette question au service soutien à la clientèle, il faut que je spécifie bien qu'il s'agit d'un problème de conformité. Maggie, oui, effectivement, je ne veux pas exposer Michaela, mais Michaela, c'est la directrice du service soutien à la clientèle. Elle vient de nous rejoindre, donc ne la bombardez pas de mails. mais nous allons collaborer sans cesse avec elle. Nous travaillons également avec l'équipe d'engagement DNS. Donc, il nous faut que ces trois services travaillent ensemble en collaboration pour apporter les bons services à la communauté ICANN. Et j'irais même jusqu'à dire, si vous n'obtenez pas de réponse, envoyez-moi un mail, je vous y répondrai. Yongxing Lang, au micro. Une question de Chris Davis, de Fondation Secure Domain. Est-ce que le service de conformité ICANN planifie de traiter un grand volume de plaintes à l'avenir? Nous analysons environ 150 000 exemples par jour et les bureaux d'enregistrement doivent répondre à ces plaintes. Je me demande si ICANN prévoit de traiter 2000 ou 3000 plaintes par jour. Maggie au micro. Merci, Chris, de votre question. Étiez-vous là à la séance ILAC de dimanche? Alan Greenberg a présenté une opportunité pour traiter une préoccupation un peu plus générale. Donc oui, nous pensons traiter un plus grand volume de complaintes, mais je ne sais pas comment répondre à votre question. Nous sommes ici. S'il faut que nous recrutions davantage de gens, on va le faire. Mais c'est un problème qui se pose au niveau des TLD et des bureaux d'enregistrement. Donc, vous pouvez envoyer un mail et dire, voilà, à ce niveau, on observe beaucoup de problèmes, mais il faut que vous nous donniez des faits, de sorte que lorsque l'on s'adresse aux parties contractantes, elles peuvent, avec nous, relever ce défi et régler ce problème. Owen, au micro. Chris, vous parliez du fait que le RA 2013 devait répondre à ce problème de plainte et qu'il n'y avait pas de bonne façon de régler ce type de plainte. Alors, d'abord, il faut s'assurer que le bureau d'enregistrement a été contacté. Si ce n'est pas le cas, le contacter et voir quelles sont les actions qui sont prises. Et ce qu'on peut faire à la CAN. Michael est à nouveau au micro. Pour répondre à Chris, première chose qu'il faut rappeler, il y a trois contrats pour les bureaux d'enregistrement qui existent actuellement. Le nombre de bureaux d'enregistrement en termes de RAA ne cesse de baisser. Il y en a combien? Un seul. Un seul, dit Owen. Donc, un bureau d'enregistrement et un plus grand nombre en 2013. Il n'y a pas d'information pour 2009, il y en a pour 2013. Donc, Chris, bien sûr, peut rester en contact avec moi puisqu'il a mon contact, mais il faut y travailler. Veuillez vous souvenir qu'il y a des obligations spécifiques par rapport à ce contrat et même si vous souhaitez que quelque chose devienne obligatoire, ça ne va pas forcément être le cas, pas simplement parce que vous le souhaitez. Bonjour. Représentante de bureau d'enregistrement. Lorsque vous essayez de contacter le bureau d'enregistrement par rapport aux abus de plainte, il y a une liste qui dit que ces noms de domaine sont utilisés pour X ou Y. Ça n'est pas suffisant. On a besoin de faits clairs qui montrent bien qu'il y a une violation, nous montrer quelle est cette violation dans les détails. Plus vous serez clair, plus nous pourrons agir rapidement et de manière efficace. Par exemple, lorsque vous avez un centre de contrôle ascendant, montrez-nous quelles sont les preuves. Owen, Fokker, oui, tu as raison. C'est ce qu'on attend aussi. c'est ce qu'on espère aussi. Dire qu'il y a eu une utilisation erronée, ça n'est pas suffisant, il faut montrer les preuves. Michael est au micro. De notre point de vue, celui des bureaux d'enregistrement, l'équipe qui s'occupe des abus a beaucoup de travail. Parfois, c'est un cas, d'autres fois, c'est 200 par jour. Donc, je demande à tout le monde de mettre les informations essentielles en premier. Ne pas tomber dans des explications juridiques sur des pages et des pages. Ce que je veux savoir, c'est le domaine, l'URL et le type d'abus. Tout le reste, s'il vous plaît, ne le mettez pas en tête. Ne le mettez pas en tête. Mettez en tête et en première page les informations essentielles. James Broder de GoDaddy. Pour répondre à une question spécifique qui a été posée à distance, je ne me souviens plus de son nom. Les bureaux d'enregistrement doivent indiquer leur point de contact dans QIS, dans la contribution QIS. Le volume de plaintes soumis par ces canaux a augmenté à hauteur de 20%. Donc, le nombre de plaintes reçues a doublé, triplé. Donc, oui, tout le monde a ses propres définition par rapport aux abus et violations. Je peux vous dire que le nombre de plaintes traitées n'a cessé d'augmenter. Et avant, nous répondions sous quelques jours. Maintenant, ça nous prend 4-5 jours courus. Et ça, c'est le résultat du fait que nous essayons d'aider. L'ICANN a diffusé ce genre d'informations.
Christina Rosette, je parle en mon nom propre. Je comprends. Je comprends ce que Volker et Mike Healy disent à propos de ces rapports. Ce que je demande, c'est que ce soit très utile, que ce soit conformité ou le groupe de bureau d'enregistrement ou en interne ou en externe, d'avoir un accord donc interne de notre, à notre avis en tant que bureau d'enregistrement. Voilà donc un format standard que nous aimerions avoir. Et au minimum, voilà les requêtes standards que nous devrions, les demandes minimum. Et voilà, je vous promets qu'ainsi nous pourrions les distribuer à toutes nos membres, toutes nos listes, et eux-mêmes qui, nos membres qui ont eux-mêmes des tas de membres. On leur dirait, voilà, c'est ce qu'il faut utiliser. Je comprends ce que vous voulez, par exemple. Ça va rendre mon travail plus facile et le travail de tout le monde facile, plus facile. Il y aura moins de temps gaspillé ainsi. Alex Tick au micro. Je suis d'accord avec cela. Ce serait bon qu'on ait un guide de meilleures pratiques ou du moins un modèle d'information où il y aurait donc un minimum d'informations demandées pour soumettre cela. Je pense que nous pourrions formuler ces choses. Je veux seulement dire que je suis d'accord avec Christina. Je suis volontaire pour aider si cela, pour assister si cela aide. Michele, dans le APWG, il y a eu du travail fait là-dessus. Je pense que il y a quelque chose dans les qui doit venir d'un message du groupe de travail. Peut-être que Norm, c'est quelque chose. J'appelle Norm Ritchie. Je sais pas. Je pense qu'il pourrait parler là-dessus. Norm Ritchie. De la Fondation Domaine Sécurité. Nous essayons de développer des spécificités vis-à-vis des bureaux d'enregistrement et de la communauté sécurité pour voir ce qui serait demandé pour tout genre de requêtes. Le PWG fait la même chose. On va essayer de se rassembler, de faire équipe. Et nous invitons donc les bureaux d'enregistrement de regarder le APWG et de voir ce qu'on appelle la Fondation de sécurité qui est publiée là et nous donner des contributions sur ce qui fonctionnerait pour eux. Michael est au micro. Si nous pourrions travailler de notre côté, nous serions très heureux de partager avec Christine et tous les autres qui veulent bien nous envoyer des plaintes valides. Maggie, des questions dans la file sur le chat à distance. Des questions du public? Oui, non, bon, c'était une session qui vous a aidé? Oui, voilà, mon cher l'aidé. La personne au panel, oui, la question... où est-ce que la présentation PowerPoint peut être téléchargée? Maggie, toutes les présentations de la semaine de conformité seront téléchargées sur ecan.org. Si vous allez sur la page conformité et sous la section communiqué outreach, vous trouverez, nous allons télécharger toutes ces présentations d'ici la fin de la semaine prochaine. D'ici la semaine prochaine, pardon. Jérémy Ebbles, au micro. J'ai une question, je suis intéressée. Je ne sais pas si pour moi, plainte, c'est le bon terme dans ce que je veux, data escrow, les plaintes pour les dépôts de données. Je me demande ce que cela veut dire, les plaintes au niveau, vous parlez des données, des dépôts de données pour les registres, les opérateurs de registres. Maggie, oui, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des problèmes techniques. Certains de ces problèmes avaient à voir avec l'échec de téléchargement. Donc, c'était des problèmes techniques, mais pas vraiment liés aux données et les notifications. C'était les deux domaines. Personne au micro. Est-ce qu'il y a une méthodologie qu'on peut suivre sur les nombres des plaintes qui sont régulières? Est-ce que cela sera communiqué aux opérateurs de registre pour qu'ils puissent faire de l'autoréglementation? Maggie, comme tout ce que nous gérons au niveau conformité, nous sommes toujours en contact avec les parties contractantes. S'il y avait un problème, nous contacterions l'opérateur de registre, nous les alerterions des problèmes potentiels, que ce soit sur les rapports que nous recevons ou s'il y a d'autres problèmes, nous traitons cela dans nos notices que nous envoyons. Personne au micro. Je parle au titre, disons, de la communauté en général, que ce soit des registres ou des fourniteurs de back-end. Cela, c'est arrivé plus souvent. Il y a beaucoup de back-end qui font la même chose. Ce serait bon de partager ces informations. Je pense que, afin qu'on puisse aller au-devant du problème, Maggie, c'est exactement les leçons que nous avons apprises et nous allons passer cela en plus de détails demain, mais c'est là où nous fournissons à la communauté, aux parties contractées les plus grandes vues d'ensemble des problèmes que nous avons trouvés et les domaines dans lesquels nous pouvons nous améliorer vis-à-vis des parties contractantes. Y a-t-il d'autres questions, dit Maggie? Non. Maggie. Je vous remercie d'être ici et d'être là avec nous pour notre session. Cette session est ouverte à tout le monde, comme vous l'avez entendu. Nous avons des opérateurs d'enregistrement, des bureaux d'enregistrement, des ALAC, tout le monde est là. Et l'idée, c'était pour nous de vous faire un rapport, mais pas seulement, et d'être transparent, mais aussi d'engager dans un dialogue et d'avoir une meilleure idée, une meilleure vue d'ensemble. Et d'être ensemble dans ce forum nous a aidé à dialoguer, à être plus transparent et aussi de comprendre les défis différents et de façon différente. Merci de votre participation. Nous allons donc publier cette présentation sur notre site web. Passez une bonne journée.